L'hôtel de Valois.
Or, le rude affairement qui régnait rive gauche en l'hôtel de Marigny n'était que petite agitation en regard de ce qui se passait rive droite à l'hôtel de Valois. Là, on chantait victoire, on criait triomphe, et l'on eut pour un peu mis les pavois aux fenêtres. Marigny n'a plus le trésor. La nouvelle, d'abord chuchotée, maintenant se clamait. Chacun savait et voulait montrer qu'il savait. Chacun commentait, chacun supputait, chacun prédisait, et cela tissait toute une rumeur de vantardise, de conciliabule, de flatterie quémandeuse. Le moindre bachelier prenait une autorité de connétable pour rabrouer les valets. Les femmes commandaient avec plus d'exigence, les enfants glapissaient avec plus d'énergie, les chambellans jouant l'important se transmettaient gravement de futiles consignes, et il n'était jusqu'au dernier clerc aux écritures qui ne voulut se donner la mine d'un dignitaire. Les dames de parage caquetaient autour de la comtesse de Valois, haute, sèche, altière. Le chanoine Étienne de Mornay, chancelier du comte, passait comme un navire entre des vagues de nuques plongeant avec respect. Toute une clientèle effervescente, côteleuse, entrait, sortait, se tenait dans l'embrasure des fenêtres, donnait son avis sur les affaires publiques. L'odeur du pouvoir s'était répandue dans Paris et chacun s'empressait à la flairer le plus près. Il en fut ainsi pendant une entière semaine. On venait, feignant d'avoir été appelé par espoir de l'être, car Monseigneur de Valois, enfermé dans son cabinet, consultait beaucoup. On vit même apparaître, fantôme de l'autre siècle, que soutenait un écuyer à barbe blanche, le vieux sire de Joinville, croulant et aminci par l'âge. Le sénéchal héréditaire de Champagne, compagnon de Saint-Louis durant la croisade de 1248, et qui s'était institué son turiféraire, avait 91 ans. À demi aveugle, la paupière mouillée et l'entendement diminué, il apportait au comte de Valois la caution de l'ancienne chevalerie et de la société féodale. Le parti baronial, pour la première fois depuis 30 ans, l'emportait. Et l'on eût dit devant la grande bousculade de ceux qui se hâtaient de leur allier que la vraie cour ne se tenait pas au palais de la cité, mais à l'hôtel de Valois. Demeure de roi, d'ailleurs. Nulle poutre au plafond qui ne fût sculptée, nulle cheminée dont la hotte monumentale ne s'ornât des écus de France, d'Anjou, du Valois, du Perche, du Maine ou de Romagne, et même des armes d'Aragon ou des emblèmes impériaux de Constantinople, puisque Charles de Valois avait fugitivement et nominalement porté tour à tour la couronne aragonaise et celle de l'Empire latin d'Orient. Partout les pavements disparaissaient sous les laines de Smyrne et les murs sous les tapis de Chypre. Les crédences, les dressoirs soutenaient un étincellement d'orfèvrerie, d'émaux, de vermeil ciselé. Mais cette façade d'opulence et de prestige cachait une lèpre, le mal d'argent. Toutes ces merveilles étaient aux trois quarts engagées pour couvrir la fabuleuse dépense qui se faisait en cette maison. Valois aimait paraître. À moins de 60 convives, sa table lui semblait vide. Et à moins de 24 plats par service, il se croyait réduit à un menu de pénitence. Comme il en allait à ses yeux des honneurs et des titres, il en allait des bijoux, des vêtements, des chevaux, des meubles, des vaisselles. Il lui fallait trop de tout pour lui donner le sentiment d'avoir assez. Chacun autour de lui profitait de ce faste. Mao de Châtillon, la troisième Madame de Valois, s'entendait à accumuler robes et parures, et il n'était princesse en France qui ne se montrât pareillement cousue de perles et de gemmes. Philippe de Valois, le fils aîné, dont la mère était Anjou-Sicile, aimait les armures padoines, les bottes de Cordoue, les lances en bois du Nord, les épées d'Allemagne. Jamais négociant, s'il venait offrir un objet rare ou somptueux, et s'il avait l'habileté de laisser entendre que quelque autre seigneur en pourrait devenir acquéreur, ne remportait sa marchandise. Les brodeuses attachées à l'hôtel et celles qu'on employait en ville ne suffisaient pas à fournir les cottes d'armes, les oriflammes, les tapis de sel, les caparaçons, les robes de monseigneur, les surcots de madame. Le bouteiller volait sur les vins, les écuyers volaient sur le fourrage, les chambellans volaient sur la chandelle et le saucier grattait sur les épices. Comme on pillait à la lingerie, on gaspillait aux cuisines. Et ce n'était là que le train courant. Car le comte de Valois devait faire face à d'autres nécessités. Géniteur prolifique, il avait d'innombrables filles qui lui étaient nées de ses trois lits. Chaque fois qu'il en mariait une, Charles se voyait contraint de s'endetter davantage afin que dot et fêtes d'épousailles fussent à la mesure des trônes autour desquels il prenait ses gendres. Sa fortune fondait dans ce réseau d'alliances. Certes, il possédait d'immenses domaines, les plus grands après ceux du roi. Mais les revenus qu'il en tirait ne couvraient plus qu'à peine les intérêts des emprunts. Les prêteurs, de mois en mois, se faisaient plus difficiles. S'il avait connu moins d'urgence à restaurer son crédit, Monseigneur de Valois eut montré moins de hâte à se saisir des affaires du royaume.